Chapitre 7. L'inattendu intervient. Clubin, hagard, regarda. C'était bien l'épouvantable écueil isolé. Impossible de se méprendre sur cette silhouette difforme. Les deux douvres jumelles se dressaient, hideusement, laissant voir entre elles, comme un piège, leur défilé. On eût dit le coupe-gorge de l'océan. Elles étaient tout près. Le brouillard les avait cachées comme un complice. Clubin, dans le brouillard, avait fait fausse route. Malgré toute son attention, il lui était arrivé ce qui arriva à deux grands navigateurs, à Gonzalez qui découvrit le Cap Blanc et à Fernandez qui découvrit le Cap Vert. La brume l'avait égaré. Elle lui avait paru excellente pour l'exécution de son projet, mais elle avait ses périls. Clubin avait dévié à l'ouest et s'était trompé. Le passager guernesiais, en croyant reconnaître les Hanois, avait déterminé le coup de barre final. Clubin avait cru se jeter sur les Hanois. La Durande, crevée par un des bas-fonds de l'écueil, n'était séparée des deux Douvres que de quelques encablures. À 200 brasses plus loin, on apercevait un massif cube de granit. On distinguait sur les pans escarpés de cette roche quelques stries et quelques reliefs pour l'escalade. Les coins rectilignes de ces rudes murailles à angle droit faisaient pressentir au sommet un plateau. C'était l'homme. La roche l'homme s'élevait plus haut encore que les roches Douvres. Sa plateforme dominait leur double pointe inaccessible. Cette plateforme, croulant par les bords, avait un entablement, et on ne sait quelle régularité sculpturale. On ne pouvait rien imaginer de plus désolé et de plus funeste. Les lames du large venaient plisser leur nappe tranquille aux faces carrées de cet énorme tronçon noir, sorte de piédestal pour les spectres immenses de la mer et de la nuit. Tout cet ensemble était stagnant, à peine un souffle dans l'air, à peine une ride sur la vague. On devinait, sous cette surface muette de l'eau, la vaste vie noyée des profondeurs. Clubin avait souvent vu l'écueil Douvres de loin. Il se convainquit que c'était bien là qu'il était. Il ne pouvait douter. Changement brusque et hideux. Les Douvres au lieu des Hanois, au lieu d'un mille, 5 lieues de mer. L'impossible. La roche Douvres, pour le naufragé solitaire, c'est la présence, visible et palpable, du dernier moment. Défense d'atteindre la terre. Clubin frissonna, il s'était mis lui-même dans la gueule de l'ombre. Pas d'autre refuge que le rocher l'homme. Il était probable que la tempête surviendrait dans la nuit et que la chaloupe de la Durande, surchargée, chavirerait. Aucun avis du naufrage n'arriverait à terre. On ne saurait même pas que Clubin avait été laissé sur l'écueil Douvres. Pas d'autre perspective que la mort de froid et de faim. Ses 75 000 francs ne lui donneraient pas une bouchée de pain. Tout ce qu'il avait échafaudé aboutissait à cette embûche. Il était l'architecte laborieux de sa catastrophe. Nulle ressource, nul salut possible. Le triomphe se faisait précipice. Au lieu de la délivrance, la capture. Au lieu du long avenir prospère, l'agonie. En un clin d'œil, le temps qu'un éclair passe, toute sa construction avait croulé. Le paradis rêvé par ce démon avait repris sa vraie figure, le sépulcre. Cependant, le vent s'était élevé. Le brouillard, secoué, troué, arraché, s'en allait pêle-mêle sur l'horizon en grands morceaux informes. Toute la mer reparut. Les bœufs, de plus en plus envahis par l'eau, continuaient de beugler dans la cale. La nuit approchait, probablement la tempête. La Durande, peu à peu renflouée par la mer montante, oscillait de droite à gauche, puis de gauche à droite, et commençait à tourner sur l'écueil comme sur un pivot. On pouvait pressentir le moment où une lame l'arracherait et la roulerait à volo. Il y avait moins d'obscurité qu'au moment du naufrage. Quoique l'heure fût plus avancée, on voyait plus clair. Le brouillard, en s'en allant, avait emporté une partie de l'ombre. L'ouest était dégagé de toute nuée. Le crépuscule a un grand ciel blanc. Cette vaste lueur éclairait la mer. La Durande était échouée en plan incliné de la poupe à la proue. Clubin monta sur l'arrière du navire qui était presque hors de l'eau. Il attacha sur l'horizon son œil fixe. Le propre de l'hypocrisie, c'est d'être âpre à l'espérance. L'hypocrite est celui qui attend. L'hypocrisie n'est autre chose qu'une espérance horrible. Et le fond de ce mensonge-là est fait avec cette vertu, devenue vice. Chose étrange à dire, il y a de la confiance dans l'hypocrisie. L'hypocrite se confie à on ne sait quoi d'indifférent dans l'inconnu qui permet le mal. Clubin regardait l'étendue. La situation était désespérée, cette âme sinistre ne l'était point. Il se disait qu'après ce long brouillard, les navires restés sous la brume, en panne ou à l'ancre, allaient reprendre leur course, et que peut-être il en passerait quelqu'un à l'horizon. Et, en effet, une voile surgit. Elle venait de l'est et allait à l'ouest. En approchant, la complication du navire se dessina. Il n'avait qu'un mât, et il était gréé en goélette. Le beaupré était presque horizontal. C'était un coutre. Avant une demi-heure, il côtoierait d'assez près l'écueil d'Ouvre. Clubin se dit « Je suis sauvé ». Dans une minute comme celle où il était, on ne pense d'abord qu'à la vie. Ce coutre était peut-être étranger. Qui sait si ce n'était pas un des navires contrebandiers allant à plein mont? Qui sait si ce n'était pas Blasquito lui-même? En ce cas, non seulement la vie serait sauve, mais la fortune. Et la rencontre de l'écueil d'Ouvre, en hâtant la conclusion, en supprimant l'attente dans la maison visionnée et dénouant en pleine mer l'aventure, aurait été un incident heureux. Toute la certitude de la réussite rentra frénétiquement dans ce sombre esprit. C'est une chose étrange que la facilité avec laquelle les coquins croient que le succès leur est dû. Il n'y avait qu'une chose à faire. La Durande engagée dans les rochers mêlait sa silhouette à la leur, se confondait avec leur dentelure où elle n'était qu'un linéament de plus, y était indistincte et perdue, et ne suffirait pas, dans le peu de jours qui restait, pour attirer l'attention du navire qui allait passer. Mais une figure humaine se dessinant en noir sur la blancheur crépusculaire, debout sur le plateau du rocher l'homme et faisant des signaux de détresse, serait sans nul doute aperçue. On enverrait une embarcation pour recueillir le naufragé. Le rocher l'homme n'était qu'à 200 brasses. L'atteindre à la nage était simple, l'escalader était facile. Il n'y avait pas une minute à perdre. L'avant de la Durande était dans la roche. C'était du haut de l'arrière et du point même où était Clubin qu'il fallait se jeter à la nage. Il commença par mouiller une sonde et reconnut qu'il y avait sous l'arrière beaucoup de fond. Les coquillages microscopiques de foraminifères et de polycystinés que le suif rapporta étaient intacts, ce qui indiquait qu'il y avait là de très creuses caves de roche, où l'eau, quelle que fût l'agitation de la surface, était toujours tranquille. Il se déshabilla, laissant ses vêtements sur le pont. Des vêtements, il en trouverait sur le coutre. Il ne garda que la ceinture de cuir. Quand il fut nu, il porta la main à cette ceinture, la reboucla, y palpa la boîte de fer, étudia rapidement du regard la direction qu'il aurait à suivre, à travers les brisants et les vagues, pour gagner le rocher l'homme. Puis, se précipitant la tête la première, il plongea. Comme il tombait de haut, il plongea profondément. Il entra très avant sous l'eau, atteignit le fond, le toucha, côtoya un moment les roches sous-marines, puis donna une secousse pour remonter à la surface. En ce moment, il se sentit saisir par le pied.